Mais bien, chers amis, les événements qui se sont produits à Québec, à la grotte de la paroisse de Notre-Dame-de-Grâce, le 15 septembre et les jours suivants, les pèlerinages qui continuent d'y amener des fidèles, les faveurs temporelles et surtout spirituelles qui répondent à la foi et aux prières, ont rappelé à tous ceux qui l'avaient connu le nom et la figure du bon curé Lavergne. Fondateur et premier curé de Notre-Dame-de-Grâce, c'est lui, en effet, qui fit construire cette grotte. Le curé Lavergne aimait d'un grand amour la très sainte Vierge Marie, et il aima aussi les pauvres, dont le nombre était grand dans ce quartier de Québec. De ces deux amours combinés, naquit la grotte de Lourdes, en arrière de son église. La grande crise des années 30 plongeait dans le dénuement absolu des familles déjà pauvres et dont les gagne-pains étaient devenus chômeurs, sans le bénéfice d'aucune loi de bien-être social dans ce temps-là. Même les allocations familiales n'étaient pas encore nées dans notre pays. Pour fournir un peu de pain aux familles, le curé Lavergne entreprit les travaux de la grotte y engageant des chômeurs et les payant avec son héritage de famille. Comme l'a écrit Mme Gilberte Côté-Mercier dans le journal Verdemain du mois d'octobre 1967, l'argent du bon curé fournissait le pain des pauvres, sans secours direct alors et sans pension aucune, et l'argent du bon curé élevait en même temps un monument d'amour à Marie. Qu'il y ait eu ou non des apparitions à l'origine de l'affluence actuelle de fidèles à la grotte, il faut souhaiter que cette manifestation de dévotion mariale continue et que ne soit plus oubliée ni délaissée cette création du curé Lavergne. Lui-même avait prédit que cette grotte deviendrait un lieu de pèlerinage. N'est-ce pas ce qui se réalise un quart de siècle après sa construction et 19 ans après la mort du curé Lavergne? Mais le curé Lavergne, fervent de la Vierge Marie et ami des pauvres, fut aussi un patriote de grande classe. Ce n'est pas lui qui concevait une politique qui serait absente de toute référence à Dieu et aux préceptes évangéliques, ni une politique dans laquelle la course au pouvoir et aux postes payants passerait avant le service de la multitude. L'abbé Lavergne ne manquait ni de courage, ni d'éloquence pour dénoncer les trahisons et les injustices, si haut placés fussent leurs auteurs. Il flagellait les tractations de coulisses, les achats de conscience, les prostitutions de mandat de ceux qui arrivaient à des postes de responsabilité par des moyens plus ou moins honnêtes, en profitaient pour mousser leurs intérêts personnels et ceux de leurs amis politiques. S'il sut flétrir les trahisons des grands et l'esprit de parti entretenu dans le peuple par ceux qui en profitaient, le curé Lavergne sut, d'autre part, reconnaître et appuyer les hommes de droiture et de courage qui savaient faire les sacrifices voulus, même sortir de la quiétude de leur foyer, de leur bureau ou de leur bibliothèque pour affronter, avec des moyens souvent modestes, les puissants et les gavés de la politique, de la finance, de la presse, du mensonge et de la corruption. Ils savaient saluer l'avènement de propositions nouvelles chargées de vérité et de justice pour tous. Ils savaient discerner et épauler des initiatives qui s'orientait vers une politique d'éducation et d'apostolat au lieu d'une politique de pouvoir, d'argent, de combine et de concession en vue du succès électoral. C'est ainsi que le curé Lavergne devint vite un ami et un auxiliaire précieux de la cause créditiste, présenté d'abord par les cahiers du Crédit Social, puis par le journal Verdemain et le mouvement créé autour de cet organe. Et il n'en fit point mystère. L'abbé Lavergne n'était point homme à masquer ses convictions, pas plus dans le champ social que dans le champ religieux. Il savait dire au grand jour, « Cela est faux, ceci est vrai. Cela est injuste et nuisible, ceci est juste et bon pour tout le monde. » Cette franchise et cette vérité ne lui firent pas que des amis, Il avait déjà des adversaires dans les Hérodes et les Pilates de la politique. Son accueil à la doctrine et au mouvement du crédit social fut pour eux, pour des puissants de la finance, l'occasion de monter contre lui une campagne de déformation, de fausseté, de calomnie auprès de l'autorité diocésaine. Son évêque, alors le cardinal Villeneuve, qui n'aimait ni le crédit social ni le mouvement créditiste, fit état de ragots, de rumeurs, de rapports non vérifiés et d'ailleurs non fondés pour lui enlever brutalement la cure de la paroisse qu'il avait fondée et servi avec tant de dévouement. Ce fut pour l'abbé Lavergne une croix dont lui seul peut bien sentir tout le poids. Il sut l'embrasser, ce qui ne la supprima pas. Il fut laissé à ses chers paroissiens, dans son discours d'adieu, l'exemple de l'attitude qu'il leur avait prêchée vis-à-vis de la volonté de Dieu, même quand cette volonté se présente comme une injustice sortie de mains humaines. Mais qu'est-ce qui avait gagné l'adhésion du curé Lavergne à la doctrine du crédit social? Était-ce le fruit de longues dissertations techniques en matière de finance et d'économie? Non pas. Encore moins l'idée de voir surgir un parti politique nouveau qui disputerait le pouvoir aux équipes ayant successivement déçu les espoirs de la population. Non, rien de tel. Le curé Lavergne nous le dit un jour lui-même. Ce que j'apprécie dans le crédit social, c'est que son application, avec son dividende à tous, ferait surtout du bien aux pauvres. À ces pauvres, aux pauvres de sa paroisse, à tous les pauvres du pays et au-delà, partout où l'exemple donné par notre pays en susciterait l'application ailleurs. Certains adhèrent à la doctrine du crédit social de Douglas à cause de sa logique, à cause de sa parfaite conformité au réel, et ils ne se trompent pas. D'autres, parce qu'ils voient dans le crédit social la meilleure arme à opposer au communisme sur le terrain économique et social, et eux aussi ont raison. Mais quand le bon curé Lavergne dit « le crédit social ferait du bien surtout aux pauvres », en même temps que c'est son cœur qui parle, il exprime un argument d'une grande vérité sur lequel il fait bon de s'arrêter pour mettre en lumière la valeur du crédit social. Que faut-il en effet pour faire du bien aux pauvres, aux dépourvus des biens de ce monde? Il leur faut les biens matériels qui leur manquent, oui, mais il leur faut aussi le relèvement de la condition d'humilier, de piétiner, de mal considérer, de poids sociaux auxquels ils se sentent si souvent réduits. Le sens social a fait beaucoup de progrès depuis les années 30. À cause du travail de Verdemain, on admet aujourd'hui que la société n'a pas le droit de laisser des personnes, des familles dans le dénuement absolu. Des mesures dites de sécurité sociale ont été établies, qui ont certainement adouci bien des conditions. Mais il reste que ces mesures maintiennent les bénéficiaires dans le statut de secourus. Outre les enquêtes et réenquêtes dont ils sont l'objet, outre les retards, les vexations, les restrictions, les rationnements, les secourus savent, et on le leur rappelle d'ailleurs souvent, que s'ils obtiennent de quoi vivre, c'est parce que d'autres l'ont gagné pour eux. La caisse où l'on puise les secours est alimentée par des taxes imposées à ceux qui tirent leurs revenus de leur contribution à la production. Les taxés sont les gagnants, les pauvres, eux, doivent savoir qu'ils vivent d'argent non gagné, qu'ils vivent du travail des autres, que la société admet avoir l'obligation de les nourrir, mais qu'ils sont quand même des parasites. Est-ce bien là réhabiliter le pauvre? Si c'est lui procurer au moins le strict nécessaire, est-ce bien là le sortir de sa condition d'humilié, le délivrer de l'obsession écrasante de se sentir un poids à la charge de la société? Mais en quoi le dividende du crédit social serait-il donc différent d'une même somme d'argent fournie, disons, par le bien-être social aux pauvres sans revenus? différent du tout au tout. Justement parce que ce serait un dividende. Un dividende est un revenu de capitaliste, non pas une aumône à un indigent, pas même un salaire lié à la servitude de l'emploi aux ordres d'un autre. Il n'y a pas d'humiliation à toucher un dividende. Le dividende est le revenu d'un homme libre. Il laisse le capitaliste toute liberté quant à l'emploi de son temps et quant au choix de sa carrière. Et le dividende proposé par le Crédit Social serait un dividende social, donc le revenu d'un capital social à chaque citoyen, donc chaque personne reconnue comme capitaliste et traitée en capitaliste. Tous, pauvres ou riches, gagnants ou pas gagnants, employés ou non, bien portants ou malades, enfants au berceau ou vieillards vivant leurs derniers jours, tous recevant le même dividende social, donc tous capitalistes au même degré pour le facteur de production qui n'est dû ni au travail des employés ni au placement des hommes d'apiastre. Croyez-vous que le bon curé Lavergne pouvait demeurer insensible à la perspective d'une économie commençant par assurer à tous ses paroissiens, comme à tous les citoyens du pays, ce statut de capitaliste, ce droit à un dividende périodique, sans avoir à subir une investigation préalable, sans avoir à se déranger, recevant le dividende périodiquement par un chèque postal comme les pensions de vieillesse d'aujourd'hui ou par une simple inscription à leur crédit personnel dans un compte de banque à leur nom. Le pauvre ne se sentirait plus un être à charge, vivant des revenus enlevés à d'autres. Il serait devenu un capitaliste sur le même pied que le plus gros actionnaire de son pays, au moins pour le capital communautaire dont le dividende social serait l'expression. Mais ce serait là de l'argent non gagné, dira-t-on. Justement, ce serait de l'argent gratuit, gratuit comme est gratuit le plus gros facteur de production, de la production moderne surtout. Et quel est donc cet élément gratuit auquel la production est redevable? C'est tout d'abord l'abondance des richesses naturelles créées par Dieu, sans aucune contribution humaine, créées avant l'homme lui-même pour lui préparer un habitat dans lequel pourraient vivre toutes les générations qui se succéderaient sur la terre. Et c'est vraiment là le plus gros facteur de production en même temps que le plus gratuit. Sans les richesses naturelles, en effet, sans le sol, la mer, les fleuves, les forêts, les chutes d'eau, le sous-sol et ses minerais, sans la pluie pour arroser les plantations, sans le soleil pour faire mûrir les fruits et les moissons, que ferait le labeur de travailleurs ou les placements de capitalistes apiastres? Et ce facteur gratuit de production a bien été créé par Dieu pour être au service de tous les hommes, pas seulement d'individus ou de groupes privilégiés. Cela veut-il condamner la propriété privée du sol, l'exploitation privée d'autres richesses naturelles et de moyens de production dans lesquels entrent ainsi des éléments de nature communautaire? Pas du tout. Mais cela veut dire que quel que soit le mode de production, il doit faciliter et non entraver la destination universelle des biens. L'offre des produits sur le marché communautaire ne reconnaît-elle pas ce principe de la destination universelle des biens? Et s'il n'y avait pas de carence du côté pouvoir d'achat, si du pouvoir d'achat était garanti à tous, comme par le dividende du crédit social, cette destination universelle serait réalisée, tout en maintenant, par la vente du produit, la récompense due au producteur. Simple question d'un système financier, d'une comptabilité monétaire ajustée à cette véritable fin de la production.